Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Qu'il est plaisant de se promener en pleine nuit dans une ville endormie. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 21 octobre. Et ce soir, Somnifère vous lit le conte « La nuit, les chats sont gris » de l'auteur québécois Polycarpe Barbanchu. Et juste avant cela, on recharge les batteries en ce milieu de semaine avec un exercice conçu pour installer une détente profonde du corps. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de vous y abonner ou de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez par la bouche à votre rythme. Ressentez le va-et-vient de votre respiration. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche. Portez à présent toute votre attention sur vos pieds et observez vos sensations. Portez votre attention sur le centre de la paume de vos pieds et imaginez une légère brise s'y installer, comme si quelqu'un était en train de souffler doucement à cet endroit. Observez comme c'est agréable. Ressentez votre corps sur le matelas qui s'enfonce de plus en plus, vous laissant dans un état de détente profonde. Continuez de respirer lentement par le nez et d'expirer à votre rythme. Laissez votre corps se reposer, relâchez vos épaules et sentez-les s'alourdir sur le matelas. Laissez votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration, puis expirez doucement par la bouche. Lorsque vous êtes prêt, laissez vos pieds se dissoudre dans l'œil de votre esprit et portez votre attention sur vos chevilles, vos mollets, vos genoux et vos cuisses. Observez les sensations que vous ressentez dans vos jambes. Si vos pensées commencent à s'égarer pendant cet exercice, remarquez-le calmement, sans jugement, et concentrez votre attention sur votre respiration. Observez, comme toutes les sensations, les fourmillements, les impressions physiques montent et descendent, se déplacent, de gauche à droite et changent d'instant en instant. Remarquez qu'aucune sensation n'est permanente. Observez simplement et permettez à vos sensations d'être dans l'instant, telles qu'elles sont. Lorsque vous êtes prêt, laissez vos jambes se dissoudre dans votre esprit et portez votre attention sur le bas de votre dos et sur votre bassin qui s'assouplit alors que vous inspirez et que vous expirez. Déplacez lentement votre attention sur le milieu de votre dos et sur votre apèse. Prenez conscience des sensations au niveau de vos muscles, de votre température ou des points de contact avec le matelas. À chaque expiration, relâchez la tension que vous avez accumulée. Quand vous êtes prêt, déplacez doucement votre attention sur la zone de votre ventre et sur les organes internes qui s'y trouvent. Observez comme votre ventre monte et descend à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Pendant que vous continuez à respirer, portez votre conscience sur votre poitrine et sur votre cœur et observez votre rythme cardiaque. Peut-être pouvez-vous sentir les battements de votre cœur. Lors de la prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos mains et sur vos doigts. Imaginez à chaque inspire que vous inspirez par les doigts et à chaque expire que vous expirez par les mêmes doigts. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à vos mains qui inspirent et qui expirent paisiblement. À la prochaine expiration, portez votre attention sur vos bras. À l'expire, vous sentez vos bras se ramollir et relâcher toutes les tensions. Continuez de respirer calmement et portez votre attention sur la région de votre cou, de vos épaules et de votre gorge. Vous remarquerez peut-être que vos épaules se soulèvent légèrement à l'inspiration. Relâchez toutes les tensions musculaires. Crispez votre gorge, votre mâchoire, lissez votre front. Et laissez s'installer un demi-sourire sur votre visage. Concentrez-vous à présent sur le haut de votre crâne. Et sentez comme une brise d'air frais s'y installe, comme si quelqu'un soufflait délicatement sur le haut de votre crâne. Détendez à présent votre corps dans son ensemble et appréciez cet état de paix et de sérénité. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
8 heures sonnaient aux horloges de la ville de Champlain. Je dis aux horloges, les clochers n'ayant pas de cadran comme à Paris. Il faisait une nuit sombre, le temps était froid, de gros nuages noirs assombrissaient le ciel. Des ombres frileuses passaient rapidement sur les trottoirs de la rue Saint-Jean. Je sortais du Chien d'or. On m'avait payé un verre de cognac, j'avais allumé un cigare et j'étais sorti. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire pour ce soir-là. Mon attente ne fut pas trompée. J'ai dit que le temps était froid, mais je n'avais pas froid. Après un bon verre de cognac dans l'estomac et un cigare de la Havane aux lèvres, on peut aller loin. En descendant la rue de la Fabrique, je vis une ombre tout de noir habillée longer majestueusement les maisons. Je la suivis, elle portait un chapeau à haute forme, un habit noir affreusement râpé, un pantalon très court, des bottes acculées, elle paraissait courbée sous le poids de la misère et de l'infortune. Je m'intéressai à cette ombre étrange. L'ombre passa la porte Saint-Jean, longea la rue Saint-Jean jusqu'à la rue Sainte-Geneviève et descendit la rue Sainte-Geneviève jusqu'à la rue de la Tourelle. Là, elle s'arrêta. Je m'arrêtai, croyant pouvoir la reconnaître. Je la reconnus. C'était mon ami Népomucène, le bohème. Par quel hasard le rencontrai-je dans cette rue de la Tourelle ? Népomucène me regarda d'un œil hagard. « Je perche dans cette rue depuis un mois, » me raconta Népomucène. « Je suis malheureux, » ajouta-t-il. Je résolus alors de ne pas finir ma journée sans faire une bonne action, comme Titus. « Viens donc avec moi, » dis-je à Népomucène. « Où ça ?»« Viens, » te dis-je. « Je n'irai pas par cette rue. »« Et pourquoi ?»« L'épicier du coin me doit. On le voit de loin, regarde, il ferme son magasin. »« Je ne te comprends pas. Il me doit quelques bouteilles d'eau-de-vie et du tabac. »« Et donc ?»« Je ne puis passer par modestie, par pudeur. »« Comment ? Tu es créancier d'un bourgeois parvenu, et par pudeur ?» Et modestie, tu n'oses pas passer devant la porte de ton débiteur ? Hélas, je suis ainsi fait, mon ami. Alors passons par la rue Richelieu. Népomucène est un ami d'enfance. Il aime à boire. Comme Musset, son verre n'est pas grand, mais il boit dans son verre. Ce soir-là, je voulus être pour lui une providence. Où vas-tu ? Me demanda-t-il, et que cherches-tu ? « Je ne sais où je vais, qui sait où nous allons dans la vie. »« Très bien, mais que cherches-tu ? » ?»« Je cherche un épicier. »« Un épicier ? » ?»« Oui. » »« Il est tard, les magasins sont fermés. »« Mon épicier, celui qui me doit, vient de fermer son magasin. »« Il dort déjà bercé de deux songes. »« Il me faut un épicier. »« Frappez et l'on vous ouvrira. »« Cherchez et vous trouverez. » Napoléon a dit que le mot « impossible » devrait être rayé de la langue française. Alors cherchons, cherchons. Nous montâmes la rue Sainte-Geneviève. Matt avait fermé. Nous enfilâmes la rue Saint-Jean. Dion avait fermé. Nous franchîmes la porte Saint-Jean. Toussaint avait fermé. Halle avait fermé. Le ciel s'était découvert, la lune dégageait des nuages, apparaissait au-dessus du clocher de la basilique comme un point sur un i. Nous vîmes de loin les vitraux de l'épicier au sac brillamment illuminé. Nepomucène poussa un soupir. Je me dirigeais vers le magasin de cet Anglais lorsqu'une chose extraordinaire, inouïe, abracadabrante, m'apparut. Sur la tour de la basilique Notre-Dame se promenait un fantôme long de 6 coudées, vêtu d'un linceul et couvert d'un immense bonnet de coton blanc. Il avait 2 dents énormes qui le descendaient jusqu'au menton, on eût dit des dents de morse. Il était terrible à voir. Il jeta un cri lugubre, plaintif, lamentable, comme le mugissement des flots battus par les aquilons. Par exemple, quand vous entendez la mer du haut d'une falaise. Le fantôme tenait à la main le dernier numéro du Canard. Il nous regarda. De ses 2 orbites sortaient 2 flammes. Nous étions comme pétrifiés. Il étendit son bras vers nous et d'une voix pareille au grondement du tonnerre, il nous dit « prenez garde à vous ». Je regardais Nepomucène, il était livide. J'avoue que je tremblais un peu, mais j'eus le courage de lui dire « marchons ». Et nous marchâmes. Je regardais en arrière, le fantôme était disparu. Nous arrivâmes chez l'Anglais au sac et nous entrâmes d'un air majestueux. 6 commis vinrent à notre rencontre. Je commandai une livre de tabac et des cigares. Un petit pain, 1/2 livre de beurre, 1 boîte de sardines, 1 boîte de homards, 1 boîte d'huîtres, 1 boîte de perdrix aux truffes, 1 livre de fromage de gruyère, 1 livre de fromage anglais. Nepomucène paraissait froid. Je commandai encore 1 bouteille de curaçao, 1 bouteille de vin d'Oporto, 1 bouteille de madère et 1 bouteille de xérès. Nepomucène riait allègrement. 1 bouteille de cognac vieux de 10 ans. Nepomucène riait maintenant à gorge déployée. « Nous tenons le bonheur, » me dit-il en riant. C'était l'idéal du bonheur. Le temps était redevenu sombre. Nous regardâmes la tour de la basilique, plus de fantômes. Nous suivîmes, à pas précipités, la rue de la Fabrique, la rue Saint-Jean. Nous franchîmes la porte Saint-Jean et nous longeâmes la rue Saint-Jean Extramuros. Nous descendîmes la rue Sainte-Geneviève jusqu'à la rue de la Tourelle. Nous suivîmes un instant la rue de la Tourelle lorsque Nepomucène s'arrêta à une haute maison à 3 aigus portant le numéro 4169,5. « C'est ici, » dit-il. « Demeures-tu bien haut ? » demandai-je. « Au dernier étage, dans une mansarde. Il n'y a pas de brigands et de voleurs dans cette maison ? » ?»« Non. » « Montons alors. » Et la porte étant ouverte, nous montâmes. L'escalier était tortueux et étroit, sans rampe, et nous montâmes en nous guidant sur un mur sale et humide. Nous n'avions aucune lumière. Arrivé sur le dernier palier, Nepomucène me dit « Attends un peu ici, je vais allumer un flambeau. » 2 minutes s'écoulèrent, je vis apparaître sur le seuil d'une porte sans serrure mon digne ami tenant à la main une bouteille avec une chandelle de suif dans le goulot. À cette lumière blafarde, je vis un taudis affreux, un grabat dans un coin, une table chargée d'énormes bouquins et d'une écritoire en étain, 2 chaises boiteuses et dans les lézardes des murs, d'épaisses toiles d'araignée. Je trouvais Nepomucène plus heureux que le Pierre Gringoire de Victor Hugo, qui n'avait pour toi que la calotte des cieux. On mit boissons et victuailles sur la table, étonné de porter tant et de si bonnes choses. On déboucha les bouteilles et l'on ouvrit les boîtes de conserves alimentaires. On se versa un verre de cognac. Nepomucène regarda son verre à la lueur de la chandelle et, tout charmé, le porta à ses lèvres. Il dégusta lentement. Sa figure paraissait ravie, c'était l'extase. Tel est le voyageur altéré qui, venant du Sahara et n'ayant bu depuis 3 jours, boit son premier verre d'eau. C'était une mauvaise image, car entre disciples de Bacchus, on ne doit jamais parler d'eau, encore moins mettre de l'eau dans son vin. « Maintenant, causons, » dit Nepomucène. « J'ai quelque chose à te confier. » Il dit ces quelques mots d'un air rêveur. « Mais on devrait parler du passé, évoquer nos joyeux souvenirs, » dis-je à Nepomucène. « Après viendra ta confidence. » Nepomucène répondit, « Le passé, on ne le tient plus puisqu'il est passé. Le présent, on ne le tient pas puisqu'il passe. L'avenir, on ne le tiendra pas puisqu'il passera. » Cela revient à la devise d'Alexandre Dumas père, « Tout lasse, tout passe, tout casse. » Justement, « J'ai donc une confidence à te faire, » dit Nepomucène. « Dis-la donc. » « Je compose un poème épique. Bien long. 64 chants. Combien de vers ? 32 000 vers. Quel sujet ? La ratepenade humaine. » « Et ce poème contient sans doute de beaux passages. J'y parle de l'abrutissement de mes compatriotes canadiens-français, de nos temps barbares, des nobles choses avilies. C'est sublime et vrai. Que prétends-tu en faire ? L'université Laval, qui a donné la médaille d'or à des lauréats pour des poèmes médiocres, à plus forte raison devrait me donner ces 3 médailles, car ce poème est des 3 genres, supérieur, moyen et médiocre. Je ne le soumettrai pas à l'université. Veux-tu le vendre ? Je roulerai sur l'or, j'irai en équipage, mais j'ai l'âme trop grande pour songer Nuville métal. Que veux-tu donc en faire ? Je le destine au canard. Nous continuâmes à rigoler, à faire tronçon de Shirley, comme dit notre grand maître Rabelais. Nous avions oublié le poème épique et le canard. Nous entendîmes alors comme un gémissement montant de la rue de la Tourelle jusqu'à nous. Nepomucène se leva, alla vers la fenêtre, en tira l'espagnolette et l'ouvrit. « Viens voir » cria-t-il. Je me précipitai. C'était le fantôme qui nous était apparu sur la tour de la basilique Notre-Dame. Il tenait encore à la main un numéro du canard. De nouveau, il dirigea son bras droit vers nous en tenant à la main cette terrible feuille. Et il nous dit « prenez garde à vous. » Je me tournai vers Nepomucène. Il était évanoui. Mon cœur battait avec force dans ma poitrine. Je me sentis comme entraîné dans un tourbillon. Des flammes passèrent devant mes yeux. J'eus une pensée horrible. « Si j'allais me réveiller dans l'enfer avec Nepomucène, » me dis-je. Je tentai un suprême effort. Je regardai à la fenêtre. Le fantôme ricanait. Enfin, je perdis connaissance. C'est encore sous l'empire d'une émotion bien naturelle que j'ai raconté au lecteur du canard les événements de cette funeste nuit. Mon ami Nepomucène a remis son poème sur le métier. Il sera bientôt prêt pour la publication. Mais je crains pour sa raison. Il me paraît sombre et livré à la mélancolie. Nepomucène n'a pas revu le fantôme. Et moi non plus.
Bonne nuit. Bonne nuit.